Nous savions que le climat changeait à cause de nous et que nous devions faire quelque chose et surtout ne plus faire beaucoup de choses. On savait que c'était urgent. Vous seul savez si on a fait ce qu'il fallait à temps pour inverser la tendance. Est-ce qu'il y a encore des manchots et des banquises à votre époque ? Les manchots, ce sont ces drôles de bêtes-là, et une banquise, c'est de l'eau solide. Quand il fait très froid, l'eau devient dure, je vous assure. On dit qu'elle gèle. Je ne sais pas dans quel état on vous a laissé la terre. Ça m'inquiète. On a pas mal fait les idiots. Pardonnez-nous. Je vous embrasse, je vous aime, votre aïeul qui dessinait, Pierre Kroll. Alors bien sûr, c'est de l'humour, mais en même temps, c'est extrêmement sérieux. C'est extrêmement grave. Et je trouve que ces derniers temps, eh bien, les jeunes ont compris à quel point c'est grave. Je fais allusion, bien sûr, à ces manifestations des jeudis, où les jeunes manifestent en faveur du climat. Début janvier, 3000 élèves. 17 janvier, 12 500. Et puis, hier, il y en avait plus de 35 000. D'ailleurs, j'ai compris que dimanche, il y a une nouvelle manifestation, mais alors pour jeunes et vieux. Ça rappelle cette manifestation début décembre qui a rassemblé 65 000 personnes avec la présence d'Adra, et je crois même qu'il y a une tête ou plusieurs têtes qu'on est. Celui qui se voit sur l'image, s'il pense avoir droit à un copyright, vous me direz. Hein. On peut se poser la question, dans quelle mesure, en tant qu'Église, en tant que croyants, sommes-nous concernés ? Alors bien sûr, quand on pense au message des trois anges, et rappelez-vous ce symbole, on pourrait dire oui, bien sûr, nous sommes concernés. Rappelez-vous ce premier message que Dieu adresse à l'humanité avec ce premier ange quand il dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le fait d'adorer le Créateur, pour la prophétie, est considéré comme urgent. Adorer celui qui a créé toute chose. L'adorer en pensée et en parole, mais également en acte. Alors bien sûr, certains attireront plus l'attention sur ce qui précède, car l'heure de son jugement est arrivée. En disant que la proximité du retour du Christ est la vraie solution, car c'est à ce moment-là que Dieu rétablira toute chose, pas avant. Alors c'est vrai que la vraie solution durable viendra de lui. Je pense que nous nous en rendons compte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois quand j'entends parler de ces sujets, je me sens un peu impuissant. Et donc l'espérance, elle est importante. Mais est-ce que cela suffit ? Et on oublie parfois que quand on parle du jugement, bien l'Apocalypse donne plus d'explications. Et il y a notamment un texte que je voudrais mettre sous votre attention, dans Apocalypse chapitre 11, et qui parle de ce jugement, qui dit « Le temps est venu de juger les morts et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et donc, visiblement, il ne suffit pas simplement d'espérer. Il ne suffit pas de dire, comme j'ai entendu une fois, « Jésus va revenir bientôt, donc la pollution, il ne faut pas en tenir compte. Continuons, comme ça Jésus va peut-être revenir encore plus vite. » Donc, déjà, avec ce message prophétique, Je dirais, oui, nous sommes concernés. Alors, pour mieux comprendre la position biblique et prophétique, je voudrais revenir un tout petit peu vers le début de l'histoire. Ce fameux récit de la Genèse. Et je voudrais le faire en partant de cette pancarte dans une des manifestations qui dit « La terre, notre maison commune ». C'est vrai que quand on regarde le récit de la création, on se rend compte que Dieu, d'une façon admirable et merveilleuse, eh bien, il va d'abord créer cette maison commune, une belle maison, un environnement splendide, un environnement qui peut accueillir la vie et le bonheur. Et ensuite, il va remplir petit à petit cette maison de plein d'êtres vivants différents. Maintenant, en lisant ce récit, on a parfois l'impression d'un langage un peu bizarre. Il y a notamment un texte que je voudrais vous présenter. Et c'est le texte suivant, Genèse 1, à partir de verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ce texte, au niveau du langage? Pourquoi est-ce que cet auteur utilise le mot « luminaire » Alors, quand il parle de « grand luminaire », il fait allusion à quoi? Le soleil, petit luminaire, la lune. Est-ce qu'à cette époque, il n'existait pas de mot équivalent à « soleil » et « lune » Ben si, justement. Il n'y avait aucun problème. Alors pourquoi ce langage un peu bizarre? Alors, en réalité, il faut savoir que à l'époque, dans le monde de l'époque, le soleil et la lune étaient bien souvent adorés comme des idoles. Par exemple, quand vous regardez dans le monde égyptien, vous aviez le dieu Ré ou Ra, peu importe la prononciation, soleil, lune, considéré comme le créateur de l'univers. D'ailleurs, à un certain moment, ce même dieu est même devenu le seul dieu quand l'Égypte est passée au monothéisme. Et vous voyez ici le pharaon qui va offrir des sacrifices au dieu soleil. La même chose existait en Mésopotamie. Ici, vous avez une stèle, et on va regarder d'un peu plus près. Donc, vous avez le roi assis sur son trône avec un astre, une étoile au-dessus de la tête. Mais ensuite, la lune et le soleil. La lune, appelée Nana ou Sin, avait comme particularité, par exemple, à Ur des Chaldées, il y avait des temples pour cette divinité. Mais dans ce temple, on pratiquait la prostitution sacrée. Donc c'était un rite de fertilité. Donc ce n'était pas des idoles innocents. Il y avait une influence sur la vie concrète. Et le dieu soleil, appelé Shamash, eh bien, la particularité, c'est qu'en hébreu, on dit soleil à peu près la même chose. Shemesh. Alors vous comprenez que pour ceux qui lisaient ce texte de cette époque-là, la tentation aurait été grande de tomber dans cette idolâtrie. Et donc, quand on revient un tout petit peu à notre texte, on comprend maintenant pourquoi Dieu n'utilise pas le mot soleil ou lune, mais plutôt grand luminaire, petit luminaire. Qu'est-ce qu'il a voulu indiquer? Eh bien, que ce ne sont pas des dieux, que c'est simplement des instruments, parce qu'un luminaire, ben je suppose même Claude ici, parfois les luminaires ici, il faut les changer. Voilà, c'est un instrument, c'est pas plus que ça. Quelque chose qui a été créé, c'est pas un dieu, c'est un instrument. On peut faire le même raisonnement d'ailleurs pour toute la création. Et donc, soleil, lune, En réalité, pour Dieu, ce n'est pas plus qu'un lustre qu'on a à la maison, un luminaire. Alors, on comprend dans le contexte de l'adoration des idoles. C'est comme si Dieu disait, non, n'entrez surtout pas là-dedans. Mais il y a eu un effet secondaire. Dans la majorité des religions de l'Antiquité, la nature était considérée comme un dieu. Et donc, il y avait un respect, une crainte très profonde pour cette nature. L'effet secondaire, en partant de cette non-divinisation, c'est que peut-être on a eu un peu de tendance à avoir moins de respect pour la nature, de considérer cela effectivement comme des instruments, mais des instruments qu'on peut utiliser à notre guise, et peut-être même exploiter à l'excès, utiliser comme bon nous semble. Est-ce une bonne façon de voir ? Bien, si on regarde d'un peu plus près le texte de la création, on pourrait avoir l'impression que oui. D'ailleurs, c'est un reproche qui a été fait aux religions judéo-chrétiennes, se basant sur la Bible. Regardons au moment où Dieu a terminé la maison, où il crée l'être humain. Le texte qui a été lu tout à l'heure. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent. Ordre de dominer. Un peu plus loin, Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Ces deux verbes, compris littéralement, ont peut-être effectivement amené les religions judéo-chrétiennes, le judaïsme et le christianisme, à aller trop loin, à exploiter, mais beaucoup trop, cette terre, à la dominer, à la soumettre durement. Quand on regarde la réalité, on peut avoir l'impression que l'homme a bien écouté cet ordre, mais de façon très très littérale, malheureusement. Parce que la réalité, quelques exemples, c'est quoi ? Quelles sont les conséquences de cette domination dure ? Alors, quelques exemples rapidement trouvés sur Internet. Plus de 60% des animaux sauvages ont disparu depuis 1970. 60%, c'est énorme. Et quand on parle de l'empreinte écologique, vous savez probablement ce que c'est entre-temps l'empreinte écologique. C'est la quantité de surface terrestre nécessaire pour produire tout ce que nous consommons, mais également la quantité de surface terrestre nécessaire pour absorber les déchets que nous produisons. Et ici, vous avez une carte qui montre quels sont les pays qui ont la plus grande empreinte écologique. Est-ce que vous voyez la Belgique ? Elle est toute petite, hein ? Elle est en quelle couleur ? Bien, la couleur la plus noire. Et les statistiques montrent qu'en Belgique, nous consommons en moyenne l'équivalent de combien de planètes ? 4. Ça veut dire qu'on vit comme si on avait 4 planètes à notre disposition. Et les calculs montrent qu'à partir du 1er avril, on a déjà consommé tout ce qu'on avait en principe le droit de consommer. Tout ce qui va au-delà, c'est de l'excès. La réalité dans laquelle nous vivons, c'est celle-là. Je termine juste avec quelques autres images. La Belgique étouffe sous la pollution et c'est visible depuis l'espace. Et même dans nos villes, bien on a de plus en plus de mal à respirer. 7 villes sur 10 en Wallonie. Alors revenons à notre texte. Bien sûr, le texte nous parle de domination et de soumission. Dominer Est-ce que cela veut dire exploiter? En réalité, je suis convaincu que le texte est mal compris, est mal appliqué. Déjà parce que quand dans la Bible on parle de dominer, de gouverner, on peut traduire par régner, cela ne peut être que dans l'objectif que Dieu a donné, et pas n'importe comment, c'est-à-dire pour le bien de chacun. D'ailleurs, très souvent dans la Bible, quand on parle de ces deux verbes « dominer » et « soumettre », bien la Bible rappelle que cela peut se faire effectivement de façon la plus dure et tyrannique, mais que Dieu invite à le faire avec douceur, avec humanité. D'autant plus que le texte va un tout petit peu plus loin. Comment faut-il dominer? Comment faut-il soumettre? Que dit le texte? Répétez deux fois également. À l'image de Dieu. Agir à l'image de Dieu. Est-ce que nous connaissons Dieu comme quelqu'un de tyrannique, qui écrase, qui détruit? Non, bien sûr que non. Nous connaissons Dieu comme un père qui aime ses enfants, qui veut tout ce qu'il y a de meilleur pour eux. Il faut d'ailleurs remarquer que quand on compare le récit de la création avec les anciennes mythologies, on constate qu'il y a une énorme différence. Par exemple, dans la mythologie ancienne de Mésopotamie qu'on appelle Enuma Elish, on constate que l'être humain, où toute la création a été créée dans la violence. L'être humain, par exemple, a été créé à partir du cadavre sanglant d'une divinité. Un autre dieu a tué un dieu pour créer l'être humain. Dans le récit de la création, c'est tout différent. Est-ce que Dieu crée avec violence? Non, comment crée-t-il? Par la parole. Et la parole, c'est l'inverse de la violence. Même si, parfois, cela peut nous arriver de prononcer des paroles violentes. Mais la parole, bien, c'est une intervention non violente, une invitation à la proximité, au respect, à la dialogue, au dialogue. D'ailleurs, quand on prend le deuxième récit de la création, vous savez, à partir du chapitre 2, à un certain moment, Dieu donne une mission à l'être humain. Il va présenter tous les animaux, et l'être humain doit faire quoi? Donner un nom à chaque animal. Donner un nom, c'est également un acte non violent. Un acte qui crée un lien, qui instaure une relation, une proximité de respect. Un peu comme les parents qui donnent un nom à leur enfant. Et donc agir comme image de Dieu, c'est agir comme Dieu, un père aimant qui veut être proche, qui agit avec respect et amour. D'ailleurs, quand on lit encore un peu plus loin dans ce premier chapitre, il y a un autre verset qui m'a frappé. Il dit « dominez sur la nature, soumettez les animaux ». Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit « je vous donne toute herbe et toute vache, tout agneau, tout animal pour manger ». Je suis content que vous ayez bien suivi, en tout cas quelques-uns, parce que les animaux ne sont pas cités, uniquement de la verdure. C'est comme si Dieu voulait dire, c'est vrai, vous dominez, mais il y a une limite à mettre dans cette domination. Il faut limiter son pouvoir. Vous n'avez pas la toute-puissance, vous n'avez pas le droit de vie et de mort sur les animaux. D'ailleurs, ce droit viendra beaucoup plus tard, lors du déluge, dans la Genèse, mais un peu comme une concession inévitable. Dominer, soumettre, oui, mais avec modération, avec limite, des limites à respecter. D'ailleurs, on retrouve le même phénomène, encore une fois, dans le deuxième récit de la création. Cette fameuse histoire de ces arbres. Quand Dieu dit, il donne cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De tous les arbres, ok, tout est à vous, sauf ça. Apprenez à maîtriser votre convoitise. Vous ne pouvez pas vous accaparer de tout. Vous ne pouvez pas tout exploiter à l'excès. Pas possible. En créant, dans ce récit de la création, chaque jour, il y a quelque chose qui est répété, c'est Dieu qui contemple sa création et qui dit à chaque fois, c'est Tov. À la fin, il va même dire, c'est très Tov. Vous savez probablement que le mot Tov signifie c'est bien. Alors, parfois, on a l'impression que ça signifie que c'est bien de façon éthique. En réalité, c'est beaucoup plus que cela. En hébreu, cela veut dire c'est bon, c'est bien, c'est beau, c'est agréable. Et c'est aussi en lien avec le bonheur, le bien-être. C'est-à-dire que cela rend le bonheur et le bien-être possible. Mais c'est vrai pour l'être humain, mais c'est vrai aussi pour tout animal, pour toute créature. Ça, c'est la remarque que Dieu donne. J'aime beaucoup une citation d'un rabbin qui disait ceci, en faisant allusion à un verset dans Psaume 115. « Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l'a remise aux humains. Cela signifie que les cieux sont déjà célestes, mais que Dieu a donné la terre aux hommes pour qu'il la transforme également en ciel. Transformer la terre en ciel. Je pense que nous sommes tous capables de le faire, tout comme nous sommes tous capables de créer un enfer pour les autres. Mais nous pouvons aussi faire en sorte que ce soit un ciel, un paradis. Mais ceci est vrai pour les êtres humains. Mais le récit de la création montre que c'est vrai simplement pour toute la création, pour tous les habitants de cette maison commune, mais aussi pour les générations futures. Rappelons-nous d'ailleurs que Dieu a donné un jour spécial comme mémorial de la création. Et parfois je regrette qu'on n'ait pas plus l'occasion de faire nos cultes dans la nature, parce que c'est la plus belle des églises que Dieu nous a donnée. Septième jour, comme jour tout particulier où nous pouvons prendre le temps de nous émerveiller devant la création, de nous approcher du Créateur, mais aussi de ses créatures. Et en même temps, pour nous assurer que cette maison commune ne se transforme pas en enfer, mais en ciel. D'ailleurs, vous savez probablement comment les Juifs, encore aujourd'hui, se souhaitent un bon sabbat. Comment est-ce qu'ils disent ? Shabbat shalom. Shalom, c'est la paix. C'est pas uniquement la paix dans le sens de absence de guerre, mais on peut comparer avec le bien-être, avec le fait de vivre heureux ensemble. Voilà ce que Dieu voudrait nous rappeler chaque sabbat. L'importance de faire en sorte que la création de Dieu soit un ciel sur terre. Shabbat shalom. Rappelez-vous d'ailleurs aussi du commandement du sabbat. Vous savez, nous, en tant qu'adventistes, nous y tenons beaucoup, hein, le commandement. Est-ce que ce commandement du sabbat concerne uniquement l'être humain ? Relisez un tout petit peu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes. Autrement dit, sabbat. Bien la création y a droit aussi. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle l'année sabbatique, bien tous les 7 ans, toute la terre avait droit au repos. Simplement pour dire que Dieu se sentait concerné par la nature qu'il avait créée. Je termine avec, au niveau de notre texte biblique, avec probablement le texte le plus important. Dans Genèse chapitre 2, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi ? Pour le cultiver, pour le garder. Je pense que c'est le verset qui explicite ce que Dieu entend par dominer et soumettre. Cultiver et garder. ça veut dire quoi? Alors, cultiver, en hébreu, c'est le verbe avad, traduit littéralement par servir, être serviteur. Quelque chose de noble. C'est tout le contraire de l'exploitation. C'est servir. La nature ne pourra nous servir durablement que dans la mesure où nous avons compris cela, que nous sommes également, nous, au service de la nature, que ça va dans les deux sens. Et le verbe garder, bien en hébreu, c'est le verbe shamar, mais c'est un verbe que nous connaissons particulièrement, parce que d'habitude, dans nos milieux, on dit quoi? On garde. Aujourd'hui, vous gardez quoi? Le sabbat. On garde les commandements. On garde l'alliance. Mais la première chose que Dieu a demandé de garder, c'était la nature, ce jardin qu'il a donné. C'est exactement le même verbe. C'est exactement la même mission sacrée qu'il nous a donnée. Alors, est-ce que nous sommes concernés par les manifestations actuelles? Alors, je ne sais pas. Mais par le sujet des manifestations, alors là, oui. Par la sauvegarde de la nature, oui. C'est la première mission, ça fait partie des premières missions que Dieu a données à l'être humain. Je me rappelle, il y a quelques mois, ou c'était au mois de décembre, je pense, un politicien wallon, dans le débat sur la COP, je ne sais plus combien, disait, voilà, moi je rêve qu'un jour, sur le toit de chaque église, nous puissions installer des panneaux voltaïques, de telle sorte que cela produise de l'électricité verte, mais encore plus, ceux qui habitent autour puissent bénéficier des tarifs très bon marché. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais notre Église, est-ce que ce sont vraiment concernés? Alors je ne dis pas, peut-être pour rassurer les responsables d'Église, qu'il faut mettre des panneaux photovoltaïques ici, hein, je n'en sais rien. Mais la question plus fondamentale, c'est, est-ce que nous nous sentons vraiment concernés? Je voudrais lire, et ce sera la toute fin de cette prédication, ne vous inquiétez pas, une déclaration que l'Église adventiste a publiée déjà en 1992. Et vous allez voir que ça rejoint ce que Pierre Kroll disait dans sa caricature. Nous savions. L'Église adventiste fait même plus. Nous nous étions engagés. Mais est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous le faisons? Voici quelques extraits. Le monde dans lequel nous vivons est un don d'amour de la part de Dieu créateur, de celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14. Les êtres humains qu'il a placés dans cet univers entretiennent des relations avec lui, leurs semblables et le monde qui les entoure. Les adventistes du septième jour considèrent donc que la préservation et le maintien de la création font partie intégrante de leur service envers le Créateur. Dieu a mis à part le septième jour, le sabbat, pour qu'il serve de mémorial, rappelle constamment son activité créatrice et la formation du monde. En se reposant ce jour-là, les adventistes soulignent la valeur particulière de cette relation avec le Créateur et sa création. L'observation du sabbat met en relief l'importance de notre association avec l'environnement tout entier. La décision humaine de désobéir à Dieu a brisé l'harmonie première et entraîné un désordre contraire aux intentions divines. De là, la pollution de l'eau, de l'air, la destruction des forêts, de leurs habitants et l'exploitation abusive des ressources naturelles. Convaincu que tous les hommes ont une origine commune et qu'ils ont tous reçu du Créateur le même droit à la dignité, les adventistes du septième jour encouragent le respect d'autrui et des relations d'entraide avec chacun. Étant donné le lien étroit qui existe entre la pauvreté humaine et la dégradation de l'environnement, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie de chacun. J'ouvre une petite parenthèse, c'est notamment ce qui motive la présence d'Adra dans une de ses manifestations. Parce que dégradation de l'environnement, c'est aussi malheureusement favoriser la pauvreté. Une action plus efficace au niveau de l'environnement exige des efforts à la fois individuels et collectifs. Nous acceptons le défi que nous lance la restauration du plan de Dieu. Par la foi, nous nous engageons à poursuivre cet effort et à soutenir le travail réalisé au niveau des êtres humains et de l'environnement par des individus déterminés à servir Dieu et l'humanité. Par cet engagement, nous confirmons notre rôle d'économe de la création et notre croyance en une restauration totale et finale de toute chose en Dieu. Bien sûr, nous espérons que Jésus revienne bientôt et qu'il restaure la création parfaitement, qu'il restaure ce tov parfait voulu par Dieu. Mais ici et maintenant, j'aime beaucoup cette citation de Martin Luther quand il disait « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier aujourd'hui. » C'est la mission que Dieu nous a confiée. Ne pensons pas trop vite que c'est trop compliqué. Alors tout à l'heure dans l'histoire, on a déjà donné quelques exemples pour les enfants. Mais il suffit de regarder sur Internet. Il y a des listes partout de petites choses que nous pouvons faire pour participer activement. La question c'est, est-ce que nous nous sentons vraiment concernés? Ou est-ce que nous vivons tellement dans une bulle hors du monde que nous avons l'impression que ça ne nous concerne pas? Je vous souhaite un bon sabbat, tel que Dieu l'a prévu. Un bon sabbat de réflexion et pourquoi pas aussi de résolution. Amen.